Alors bonjour, nous sommes le 27 janvier 2018, nous sommes au Centre d'Art Contemporain Chanot et c'est aujourd'hui le vernissage de l'exposition Hypnorama. Nous sommes donc avec Violaine Lechu. Violaine, je voulais te dire quand même avant de commencer que j'étais vraiment ravie d'une part de te voir réaliser toute cette belle exposition et puis aussi du temps qu'on va se consacrer toutes les deux pour discuter. C'est ta première exposition personnelle. C'est un grand défi, je pense, pour toi, comme ça l'a été pour moi quand on s'est engagé sur ce projet, parce que la question, c'est comment on va exposer la performance? Est-ce qu'il y a possibilité d'exposer un travail performatif au-delà du document, du témoignage de performance? Et aussi, comment intégrer ce moment qu'est l'exposition, toi, dans ta pratique plus générale, que l'on va connaître aussi pour beaucoup d'actions, d'événements, de moments très instantanés. Donc je voulais savoir, toi, comment tu avais choisi de t'emparer de ce médium exposition et du temps que ça représente, c'est-à-dire 2 mois et demi.
Cette exposition personnelle permet de montrer un certain nombre de pièces qui sont méconnues, en fait, mais qui existent déjà depuis un moment et qui sont vraiment là autonomes de la performance, même si par ailleurs il est question de voix, il est question de corps, mais en prenant en charge le médium, quoi. Par exemple, dans la vidéo Shadat, donc, que j'ai fait lors de ma résidence en Laponie, là c'était vraiment mettre la caméra comme si c'était une prolongation de mon corps et aller chercher des points de vue dans l'espace. Donc ça, c'est une hybridation, justement, avec des éléments qui sont non humains. C'est une chose que, justement, j'ai pu explorer également dans une performance qui s'appelle High Bird, mais qui, dans la vidéo Shadat, on est vraiment dans une réflexion aussi sur la manière de filmer et on est dans de la vidéo, quoi, vraiment. De la même manière, les partitions sont pensées pour être vues en tant que telles. On est dans du dessin. En même temps, on peut pas évacuer la performance. C'est pour ça que c'est là aussi des forme hybride quelque part. Et après, donc, l'exposition, voilà, c'était aussi de créer cette pièce in situ, quoi, Hypnorama, qui est vraiment une installation sonore, qui est un grand défi. Parce que c'est, ça représente la moitié de l'exposition, ça veut dire que c'est un peu la pièce maîtresse qui donne même son titre à l'exposition. Et là, du coup, j'ai voulu travailler avec Guillaume Constantin aussi, hein, sur le display en général, mais particulièrement sur cette pièce sonore qu'on a mis en espace. Et du coup, pour prolonger sur la collaboration, j'ai invité aussi Baptiste Jox, donc qui est créateur lumière. Comme d'habitude, je travaille avec Christophe Amery, je travaille avec lui depuis 6 ans maintenant, qui est le graphiste de toutes les éditions. J'ai un gros travail éditorial qui est présenté aussi dans l'exposition. Et puis, il y a tous ces événements où la performance quand même a une place importante, puisqu'en tout, on en a 3. Là aussi, j'invite d'autres artistes à expérimenter des choses avec des trames de performance que je leur propose, quoi.
Alors ça, c'est une des choses qui m'a fascinée, moi, quand j'ai découvert ton travail, c'est cette dimension, on pourrait quasiment parler d'altérité, la façon dont l'autre intervient dans tes projets. Donc que ce soit pour ces collaborations dont tu parles ici, là, sur la pièce Hypnorama, effectivement, qui fait intervenir une personne à la lumière, une personne au son. Pour les pièces, effectivement, là, les moments où tu invites les performeurs, et aussi à tous ces moments où tu vas à la rencontre de gens qui vont ensuite avoir une existence dans ton œuvre. Je trouve une existence à chaque fois très juste et très exigeante. C'est-à-dire qu'effectivement, les échanges que tu vas avoir avec des personnes vont intervenir ensuite, vont être réinterprétés dans les performances. Et c'est intéressant parce que là, en fait, tu fais rentrer dans le champ des arts visuels une pratique du spectacle vivant. Peut-être pour continuer, tout à l'heure tu parlais des partitions et je trouvais que les partitions c'était quelque chose d'assez assez intéressant dans ton travail parce que elles arrivent à un moment du projet, ce projet qui est très vaste, qui va aller vers la rencontre de personnes, vers des recherches scientifiques, des approches, vers un travail performatif, la partition, l'édition, la vidéo. Et donc, à quel moment apparaît la partition en fait dans ce vaste projet, enfin dans ce vaste ensemble que constitue un projet?
À la base des projets, donc, il y a un travail de collectage, que ça soit auprès de personnes ou, par exemple, sur Archivox, qui est la dernière performance que j'ai faite, de sons de vidéos d'Ali Kazma ou de sons sur YouTube. Ça, c'est la première phase du projet. Ces sons ou ces paroles, je les note. Donc, j'ai des cahiers, j'ai des dizaines et des dizaines de cahiers à la maison, c'est que des notes. Quand on est dans de la parole, c'est l'écriture. quand on est dans des sons non humains, non articulés dans de la langue, eh ben, j'ai un système de notation qui m'est propre. Et après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais il faut pousser cette démarche plus loin et en faire, en fait, des choses publiques, des choses qui pourraient être montrées en tant que telles. Donc, ça donne mes partitions. Seulement, c'est pas vraiment, on est à la lisière de la partition, c'est plutôt des retranscriptions graphiques de ma pensée sonore. Et elles, si elles sont des partitions, ce sont des partitions ouvertes, c'est-à-dire, là par exemple j'invite Pierre Riccardi, donc, qui est guitariste, clarinettiste et compositeur, à venir interpréter mes partitions de High Bird. Ce qui va m'intéresser, c'est comment il va s'emparer d'une trame graphique pour donner un son. Donc on peut parler, pour mes partitions, ça peut être des partitions, mais des partitions ouvertes. Je ne cherche pas à ce qu'une chanteuse refasse la même chose que moi, performeuse, parce que je pense que je suis un ensemble organique et qu'en fait, je collecte, j'écris, j'interprète, je fais tout. Et pour moi, ça n'aurait pas de sens, à part quand je serais vieille, que j'aurais plus de voix ou quand je serais morte. En tout cas, tant que je serais là et que je pourrais le faire, ça, pour moi, ça n'aurait pas de sens qu'une autre chanteuse le joue. Donc, ce statut de partition est ambigu et complexe.
À propos de statut, est-ce qu'on peut parler à un moment donné sur justement ces pièces qui interviennent dans le cadre de tes projets d'un statut particulier ? Est-ce qu'on va parler d'œuvres, de documents, d'archives ? Comment est-ce que tu appréhendes toi ces éléments-là ?
Je ne montre pas de captation de performance, ni justement mes notes qui sont là des documents, qui sont des archives. Je m'en sers, les captations de performance, pour communiquer dessus sur Internet, mais c'est pour moi, là, du document, et je ne les montre pas dans un contexte d'exposition. Ici, ce que je montre, pour moi, en tout cas, ce sont des pièces, en tant que telles, quoi.
Dans l'exposition, on est donc là au cœur de la pièce Hypnorama. Est-ce que tu peux en parler rapidement, juste la genèse de ce projet Hypnorama, à quel moment, non pas tu es rentrée dans la collaboration, mais la fonction même du projet ?
Alors, Hypnorama, en fait, c'est fait suite à une résidence que j'ai fait à l'école préparatoire Les Arcades à Issy-les-Moulineaux. J'ai été invitée par Emmanuel Hermange et Anne Dreyfus à la faire. Et en fait, cette résidence, c'est ma recherche portée sur l'hypnagogie, donc qui est cet état qu'on a entre la veille et le sommeil. Et pour mener cette recherche, j'ai été chez une sophrologue et chez une hypnothérapeute pour aller justement me confronter à cet état de rêve éveillé. Et par la suite, donc, ça m'a donné des idées. Donc là aussi, il y a une performance qui est très autonome, qui est Hypno Queen, qui est en duo avec le guitariste Julien Després, et qui est une réflexion sur justement l'identité en métamorphose, parce que c'est ce que j'ai vécu sous hypnose. Je suis devenue pierre, je suis devenue homme, je suis devenue végétale, etc. Donc cette performance déploie ces éléments-là. Et ici, donc, le pendant en pièce sonore, qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la performance, qui s'appelle Hypnorama, c'est une installation qui j'ai cherché à mettre le spectateur dans un état hypnagogique, à lui faire vivre par le son, par la lumière, par l'environnement, une expérience. Là aussi, on peut parler peut-être de performance. C'est quelque chose qui est de l'ordre du vécu et du temps. Vraiment de la séance, en fait. On est proche d'une séance d'hypnagogie. Donc après, on verra si les gens qui viennent ont envie de jouer le jeu ou pas. Mais c'est vraiment pensé pour que le corps, par exemple, puisse s'allonger, pour la lumière se baisse, pour que les yeux puissent se fermer, qu'on se laisse aller. Et le son, j'ai vraiment pensé comme les quatre phases de sommeil. Donc une phase d'endormissement, de sommeil profond, de sommeil paradoxal et de réveil. Et donc c'est quelque chose de très... je joue beaucoup sur les harmoniques, ça crée des sensations physiques aussi dans le son, des choses qui se frottent, qu'on ressent par pas seulement par les oreilles, mais aussi par le ventre, par la vibration.
Je trouve ça très très beau, cette idée de transfert de la performance, en fait, que toi, tu proposes au visiteur de lui-même, à un moment donné, faire ou vivre une performance. Je trouve que c'est hyper généreux comme proposition. Peut-être pour terminer notre échange, puisque là, en fait, tu viens de parler de Hypnorama, ce projet où, voilà, avec différentes rencontres de sophrologues, d'hypnothérapeutes, tu as vécu différents états. Ça me fait rebondir sur quand même cette question de l'hybridation et de la métamorphose qu'on va retrouver dans beaucoup de tes pièces. High Bird, tu deviens oiseau, tu deviens femme oiseau. Hypno Queen, donc, où tu, à un moment donné, passes par l'état de pierre, par l'état d'être un autre personnage. Et finalement, toutes tes performances reposent aussi sur cette question d'à un moment donné incarner un autre. Comment est-ce que tu gardes, toi, ton identité, Violaine Lochu? Comment est-ce que tu arrives à rester ou pas, d'ailleurs? En tout cas, voilà. Comment est-ce que toi, tu t'inscris au milieu de toutes ces identités que tu interprètes dans toutes tes performances?
Je cherche pas à incarner l'autre en soi. C'est pas forcément... Évidemment, la question de la mimésie, ses limitations sont très présentes. Pour autant, ce qui m'intéresse, c'est la tierce voix, c'est-à-dire c'est l'endroit de rencontre entre moi et l'autre entité, qui peut être une personne ou un animal ou une machine. Ce qui va m'intéresser, c'est comment moi, au contact de l'autre, je vais devenir. C'est le devenir commun, en fait. Et faire surgir dans ma voix, non pas ma voix seule ou celle de l'autre, mais une tierce voix. L'homme, l'humain, il a cette capacité d'empathie extraordinaire. On est beaucoup moins séparé de son environnement qu'on est relié. Je pense qu'on vient d'une tradition occidentale, une manière de voir le monde où justement on sépare l'humain du reste. Et mon travail, je crois qu'il interroge ça. En fait, moi, je me perçois beaucoup moins comme quelque chose de séparé que sans arrêt en relation.
Dernière question, Violaine, par rapport à la performance que tu vas interpréter ce soir avec trois autres chanteuses, La Confusion du cœur. Comment est-ce qu'elle a été créée? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
C'est la première fois que j'écris, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, enfin, en tout cas que je propose une performance avec d'autres chanteuses. Toutes les quatre, on vient de musique orale, on vient de la musique traditionnelle à la base, on n'est pas du tout des chanteuses lyriques. Et ici, c'est une performance qui est venue suite à l'expérience du chœur. Quand on chante en chœur, c'est une expérience incroyable, je la souhaite à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'entend plus sa voix. On devient là aussi la chambre, on devient l'enceinte de l'autre, on sent la voix de l'autre contre sa peau. Et du coup, ici, c'est vraiment une réflexion sur le cœur, mais aussi sur l'espace. C'est pas du tout une pièce concert. Justement, ça, elle peut pas être séparée de l'endroit, elle est vraiment in situ. Je pense qu'elle sera one shot parce que c'est une réflexion sur l'espace du centre d'art, qui est un espace qui est ingrat pour le son, parce que c'est un espace qui résonne énormément, qui très vite, dès qu'il y a deux personnes qui parlent, on passe à du capharnaüm. Et donc là, c'est pousser ce défaut à son paroxysme et en faire une qualité, quoi. Et donc, j'ai choisi des sons qui sont résonnants, qui font vibrer l'espace d'une certaine manière. Il y a un mode de déplacement également, il y a des jeux dans nos regards, dans nos postures, etc. Et on ne sait plus qui chante, on ne sait plus d'où ça vient, et l'espace en entier chante, en fait.